Bien, bonsoir. Donc, deuxième séance de ce séminaire consacré à la question le travail, une valeur. Deuxième séance, donc je vais prendre le relais de ce qui s'est déjà dit la première fois, du travail que Rav Moshe a fait notamment avec Lothaire ici présent et Julien qui n'est pas là, je ne sais pas s'il viendra tout à l'heure. Et donc, je suis très content de prendre le relais de ce qu'ils ont ouvert, je vais rappeler très brièvement. Mais je vais également donc rapporter, si bien que je peux, j'espère que je ne déformerai pas trop, des enseignements que j'ai reçus ici, dans le cadre donc du Limoud que je suis dans ce Beit HaMidrash avec Rabbi Yoshua Gronstein. Mais donc là, il y a une petite façon de présenter les choses qui fait que j'utilise un prétexte, on pourrait dire comme ça, qui est un texte d'Hannah Arendt, un ouvrage qui s'appelle La condition de l'homme moderne. Je reviendrai un petit peu sur les raisons du choix de cet ouvrage pour s'interroger sur la Torah et le travail. Ça paraît un peu bizarre, mais je pense que ça nous donne quelques petites pistes intéressantes. On va essayer d'y revenir. Donc, en guise de rappel de l'épisode précédent, donc de la première séance, pour ceux qui n'étaient pas, rassurez-vous, il y aura un compte rendu, on trouvera moyen aussi peut-être de le mettre sur site internet, enfin vous pourrez rattraper les choses. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, le rappel que je vais faire va vous paraître très sec, c'est parce que, en effet, c'était un propos très riche qui a été introduit, donc si je le résume pour prendre le relais, ça va paraître un peu sec. Voilà de ce dont on a parlé la première fois. On a parlé donc du travail, accrochez-vous, comme lieu d'une tension entre le profane et le sacré. Donc pour ceux qui étaient là, ça parle déjà un petit peu, pour les autres c'est peut-être un peu difficile. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette tension, sur cette articulation profane, sacrée ou horizontale, verticale. Il y a plusieurs façons dont on va dire les choses. Donc on a parlé du travail comme une activité permettant de mettre de la Torah dans le monde, de mettre du Kodesh, du saint, du séparé, dans le profane, le chol. Donc là aussi, un peu difficile, mais voilà. Ces notions-là, on voit bien cette articulation que donne le travail. Autre élément de rappel donc de notre épisode précédent, un enseignement de Rabbi Akiva qui plaçait le travail du côté d'une valeur, lui, quasiment sans limite. Une valeur de construction du Beit HaMidrash. Paradigme incroyable. Un modèle de construction du monde. Donc on a vu que chez nos maîtres, et pas les moindres, il y avait un enseignement qui portait le travail donc comme une valeur extrêmement importante. Une discussion avec Rabbi Doustaï, qui ne dit pas que le travail est moins important, et qui le place lui plutôt, enfin qui avait une tendance, c'est une discussion, hein, donc je la caricature un peu naturellement, il place du côté de la nécessité, et donc il disait qu'on pouvait effectuer une mélacha, donc c'est un des mots hébreux qu'on utilise donc pour travail. On va revenir aux différentes définitions, aux différents termes qu'on peut utiliser. On effectue une mélacha par nécessité. L'auteur faisait remarquer une nécessité de quoi? Il proposait une idée aussi qui était une nécessité de prendre part à la dimension sociale de l'existence. C'est pas rien. Donc ça nous met plutôt du côté horizontal, c'est ça? Et donc on va revenir sur aussi cette dimension sociale de l'existence. Donc voilà, on a rappelé, on plante le décor, une tension entre une dimension verticale, le Kodesh, et une dimension horizontale, le profane. Donc il y a des perspectives incroyables, une valeur illimitée du travail, un travail par nécessité, il y a des choses importantes. Et surtout on avait introduit un élément de scénario très, très curieux, nous interpeller, qui est tout simple, mais quand on a travaillé dessus, ça interpellait beaucoup, comme on dit, aimer le travail. Il y a une Mishnah de Avot, qui nous enseigne qu'il faut aimer le travail. Alors on va regarder un peu comment ça fonctionne, mais j'ai le regret de vous dire que je vais vous présenter une vision assez pessimiste peut-être des choses, qui est tirée par la lecture que j'ai faite de l'ouvrage d'Anna Arendt. C'est-à-dire une version pessimiste, c'est quoi? C'est une version où, dans ce que j'ai lu, la valeur du travail s'écrase, s'incline devant la nécessité. On verra quelle nécessité. C'est-à-dire que l'élévation spirituelle, le projet de mettre du Kodesh dans le rôle, semble s'engloutir comme pris, balayé par une vague de fond. Cette vague de fond, c'est ce que j'appellerais le mouvement de sécularisation du monde. Et donc, on va un peu regarder comment ça fonctionne et quel est ce mouvement et quel rôle le travail joue dans cette grande vague de fond séculaire de sécularisation du monde. Mais on va regarder ça quand même un petit peu en détail et d'essayer de le faire à la lumière d'enseignements de la Torah, peut-être pour trouver des points d'achoppement, des points de résistance à ce mouvement, je ne sais pas, ou au contraire, des trouées dans l'horizon profane. Et on va être amené à proposer une notion de travail un peu à la lumière de la Torah. Donc, pour cette réflexion, je vais partir d'un texte d'Anna Arendt, La condition de l'homme moderne. Alors, il faut savoir que ça a été écrit en 1958, à un moment où Anna Arendt s'interrogeait, comme différents philosophes, différents penseurs, sur l'échec flagrant, complet, de la modernité, des sociétés modernes, telle qu'il s'est manifesté par la guerre à la Shoah. Et donc, elle tentait de trouver des ouvertures de pensée, de transformation du monde, en analysant le mouvement des sociétés. Et dans cette réflexion, elle a effectivement donné une place centrale au travail, comme expression de ce qu'elle appelle la vita activa, la vie active, l'activité de l'homme moderne. Alors, donc, je pars bien de cette réflexion d'Anna Arendt comme réflexion d'une philosophe, pas comme un texte de pensée juive. On va voir qu'il y a des trucs qui nous interrogent un peu. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ce monde du profane dont nous parle Anna Arendt et dont le travail est un pilier? Alors, il y a trois catégories, je vous le dis tout de suite, mais je vais y revenir après un peu plus en détail. Il y a trois catégories qu'elle utilise, le travail, l'œuvre, l'action. Ça va donc nous amener à discuter trois notions aussi dans notre traduction. La notion d'avoda, traduit couramment ce terme par travail, mais le terme d'avoda, on a vu, on en a parlé je crois déjà la première fois, ça nous ouvre du côté de la mise en fonctionnement, du service. Alors, avoda, qu'est-ce que je fais fonctionner par ma avoda dans le monde? Au service de qui? En majuscule, en version Kodesh, version élevée. Au service de qui? Minuscule, version Chol. Et je dirais même au service de quoi? Version Super Chol, mais on verra que cette version a beaucoup de puissance. Donc, on parlera aussi de la notion de Melacha. Là, c'est vrai que ça se rapproche un peu du sens du terme d'œuvre qu'utilise Anna Arendt. Je serai plus bref là-dessus. On en a parlé déjà un petit peu et je crois qu'on y reviendra largement dans les autres séances, notamment aussi à propos des Melachot de Shabbat qui sont interdites. Et on parlera également donc de la notion d'action, Assia peut-être, mais on verra, ça nous amènera à une mise en scène tout à fait particulière que je vous réserve pour la fin, qui est un jugement sur l'action des hommes, jugement à la fin des temps, une mise en scène que je trouve tout à fait interpellante. Alors, voilà, on va rentrer dans cette catégorie du travail, mais il se trouve justement que c'est un peu étonnant, il y a un chapitre qui est très bizarre qui précède tout ça. Anna Arendt commence par faire un chapitre sur domaine public, domaine privé. Bon, elle dit la distinction domaine privé. À l'origine, c'est le domaine familial, en gros, propriété, le latifundia, le petit domaine. Et le domaine public, en gros, le politique, avec un petit P, un grand P, comme vous voulez, elle pense que c'est une notion fondamentale. Alors, elle ne l'a pas inventée, elle la reprend d'abord des Grecs, La notion de privé, donc, chez les Grecs, c'est le domaine de l'économique, de l'économie familiale, la propriété, le domaine. Mais attention, c'est le domaine de la nécessité, c'est le domaine des besoins de la vie organique. Ça peut même être le domaine de la violence qui peut être exercée sur la domesticité, sur les esclaves, voire sur les femmes et les enfants. Donc, attention, le domaine privé, c'est pas si sain que ça. Et chez les Grecs, on voit bien que tous les textes le disent très clairement, que le travail des esclaves est tout à fait méprisé, bien que ce soit un travail nécessaire, mais il est méprisé. Et même quelque chose qui m'a un peu frappé, on verra pourquoi, mais ils disent même que la servitude chez les Grecs, c'est pire que la mort. Pourquoi il parle de mort ? Bon, on va y revenir, c'est intéressant. Alors, le public, par contre, chez les Grecs, et Hannah Arendt le reprend largement, c'est la police, P-O-L-I-S, enfin en grec, quoi, police, la cité, quoi, le domaine de la liberté, de l'égalité, le domaine des citoyens. Et donc, on a le modèle pour Hannah Arendt qui est le modèle fort, c'est un modèle grec, bien sûr. Elle dit, par exemple, que le barbare, lui, qui n'a pas su établir de domaine public, n'est pas pleinement humain. Donc, c'est catégorique. Mais, bon, qu'est-ce qui s'est passé après l'effondrement des cités, au sens grec, mais aussi des états-villes qui se sont formés? On a la période du Moyen-Âge. Moi, je ne suis pas ni historien, machin, mais rapidement, je donne quelques idées qui sont intéressantes pour la suite. Le Moyen-Âge connaît, d'après ce qu'elle dit, une régression du domaine public. C'est le privé qui prend sa revanche et s'étend considérablement. Qu'est-ce que vous entendez par privé qui s'étend ? L'économique, le domaine privé, enfin, c'est la féodalité, c'est tout le domaine féodal qui s'étend. Et alors elle dit que, dans son image, que le public est carrément, le domaine public est très restreint, et bizarrement, elle dit qu'il est restreint au religieux, au sacré. Très curieux, curieux paradoxe qui en dit un peu long sur ce type de religion, mais c'est comme ça. Alors, voilà, le privé a pris le pas. Je vais citer Hannah Arendt. Les intérêts privés prennent une importance publique que nous nommons sociale. Privé, public, social. L'expansion du privé et son envahissement de la sphère publique donnent l'avènement du social. Un débordement du privé dans le public donnerait l'avènement du social. Bon. Quoi qu'il en soit, il en résulte un brouillage des frontières. Le privé, au sens où on l'entendait avant, le domaine de l'économique, familial, etc., il s'est tellement étendu, mais il s'est embrouillé avec le domaine public, au point que ce qui resterait strictement privé serait, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, le domaine de l'intime. C'est tout. Tout le reste est mélangé. Et par exemple, Hannah Arendt reprend et dit « Dès lors que la société impose d'innombrables règles qui normalisent les gens et les comportements, il en résulte un conformisme qui empêche l'action, c'est-à-dire se conduire en individu dans le domaine public. » Donc cet envahissement, ce débordement, bon, crée peut-être un nouveau domaine, un domaine social, mais ça empêche de se conduire en individu dans le domaine public, c'est-à-dire c'est une certaine mort de l'individu tel qu'il était avant. Pas tout à fait. Pour certains auteurs, un nouvel individu émerge de cette mort de l'ancien individu. Et je cite un sociologue contemporain, vous l'avez dans les textes, hein, vous pourrez regarder ça à tête reposée, mais je trouve ça, son idée intéressante, dit « l'individualité sociale ». C'est la forme par laquelle l'individu dépasse le caractère privé de son activité et prétend s'approprier de manière active, important, active au sens de l'action, le sens des relations multiples qu'il noue avec sa propre société en tant qu'elle est en devenir et qu'il participe à son engendrement. Il y a aussi une citation d'Alain Touraine qui est un peu longue, c'est un sociologue, qui dit en substance que l'importance du travail tient à ce qu'il nous permet aujourd'hui de bâtir une identité communautaire. Donc on a toujours cette idée, travail, identité, privé, public, social, mais c'est un peu compliqué de s'y repérer dans tout ça. Donc, d'une certaine manière, dans ce mouvement, il y a un individu qui est mort, un individu sujet, mais L'individu est mort, vive l'individu social, l'individualité sociale dont vient de parler, par exemple, Zarifian. Alors le travail, on ne l'a pas perdu de vue, au contraire. Voilà ce que dit Hannah Arendt. Le travail resté pendant des millénaires dans la sphère privée et demeuré stationnaire, rivé au processus vital, au règne de la nécessité. C'est en s'élevant au rang d'activité publique. Là, je n'ai pas très bien compris si c'est un problème de traduction ou pas. Je trouve qu'Hannah Arendt aurait dû dire au rang d'activité sociale, l'activité publique, qu'il a connu une évolution de plus en plus rapide. Il a pris une tournure contre nature par l'accélération en augmentation constante de la productivité. Libéré par le travail, sorti des restrictions que lui imposait sa relégation au domaine privé, donc sorti du labeur, de la peine, du règne de la nécessité, le travail trouve dans le social un incubateur prodigieux. Autrement dit, le travail est mort, vive le travail social. Donc, le travail est visiblement l'instrument moteur d'une mutation vers un social qui est ni privé ni public. Il est la force sur laquelle s'établit une société de masse, travail salarié généralisé, le mode de la consommation de masse. Cette société de masse détruit le domaine public et le domaine privé, en même temps en les mélangeant, en les confondant. Ça pourrait avoir deux conséquences. Certains parlent par exemple du dépérissement de l'État comme aboutissement de la destruction du domaine public et parallèlement l'expropriation de la propriété privée, c'est-à-dire la socialisation, comme autre aboutissement de la disparition du domaine privé. Alors, voilà, en gros, on a des éléments de vocabulaire, comment ça fonctionne, c'est pas facile. Alors, moi je me suis posé une question quand même quand j'ai vu que, avant de parler du travail au sens strict, ce qu'on va faire, pourquoi ce chapitre bizarre, domaine privé, domaine public ? Et c'est assez troublant parce que, alors il faut dire, je vous explique qu'en ce moment on étudie au Beit HaMidrash la Gemara Shabbat, et donc la première Mishnah de la Gemara Shabbat commence par toute une distinction entre domaine public et domaine privé, et notamment donc les travaux qui sont interdits au Bnei Israël, en Shabbat, et notamment ce travail très particulier, parce qu'on dirait que ce n'est pas un travail, qui est de faire circuler un objet du domaine privé au domaine public et réciproquement. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si ce n'était pas chez Hannah Arendt, comme chez quelques autres auteurs aussi, qui ont repris cette réflexion, une manière de poser, on pourrait dire inconsciemment, à l'issue de son plein gré, le problème du rapport entre le Chol et le Kodesh. C'est bien la problématique que nos amis Rav Moshe ont introduit en la première séance et que, sur laquelle on avait commencé à élaborer. Donc j'ai essayé de la reprendre. On va regarder donc un peu plus près. Alors on va avoir besoin d'une sorte de traduction. C'est pas forcément génial, mais on va voir si ça marche. On va donc poser que le privé, au sens du Reshut HaYachid de Shabbat, c'est le domaine du Kodesh. Et le public, c'est-à-dire le domaine du Reshut HaRabim de Shabbat, serait le domaine du Chol. En tout cas, c'est assez cohérent avec l'idée que le privé, donc le Kodesh, a une dimension verticale sans limite. Vous savez pas, mais que le domaine privé de Shabbat est illimité en hauteur. Il monte jusqu'au ciel. C'est un Kodesh. Et par contre, donc le Reshut HaYachid, le Reshut HaRabim, le public, le domaine public, ici le Chol, se déploie beaucoup plus dans une dimension horizontale. Il y a un certain nombre de règles. Dimension horizontale et notamment celle des rapports avec les gens, les rapports de société. Donc, on a tout à fait quelque chose qui ressemble aux lois de Shabbat. Le Reshut HaYachid monte sans limite jusqu'au ciel et le Reshut HaRabim, le public, est le domaine des relations horizontales où il y a d'autres lois qui s'expriment, qui jouent. Et donc, la distinction est très très forte. Au point que donc il y a une melacha, un travail, on hésite à traduire par travail, tout à fait particulier, que les commentateurs Tosfot disent c'est une melacha groua, légère, d'apparence légère, qui ne correspond pas à un travail de transformation d'un objet, et qui est l'action de faire, de transporter ou faire passer un objet d'un reshoot, d'un domaine, à un autre, sans modifier en quoi que ce soit qu'un objet. Mais cette mélacha, on y attache tellement d'importance que, comme les autres transgressions, mais celle-là aussi, bien que d'apparence légère, entraîne une peine de mort si elle est transgressée de manière volontaire dans les conditions, vous savez, qui sont toujours avec énormément de précautions, on pourrait dire, dans la Gemara. Alors, si on transpose, ça va devenir un peu difficile, mais donc voilà. Il y a possibilité de faire descendre du Kodesh dans le Chol par le travail. Ça, c'est la première séance. Le travail peut faire descendre de la Torah dans le monde, du Kodesh dans le Chol. Dans la Mishnah de Shabbat, ça s'appelle une Otsaha, c'est-à-dire un passage du domaine privé, Kodesh, vers le domaine Chol, une sortie du privé vers le public. Et donc, on a vu que c'est la seule façon valide de le faire, c'est par le travail. Et dans un monde sans travail, c'est-à-dire Shabbat, on ne peut pas le faire. C'est strictement interdit, séparation stricte. Il faut respecter les domaines. Et si on passe tout vers le domaine public, par exemple, tout vers le rôle, on pourrait dire l'individu humain, il meurt puisqu'il n'existe plus verticalement. S'il n'est que horizontal, il n'a plus sa dimension verticale, il meurt. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu, semblerait très fort dans cette histoire d'interdiction. Alors, on a la même chose symétriquement, ce qu'on appelle l'arnasa, c'est-à-dire faire entrer quelque chose du domaine public dans le domaine privé. C'est aussi interdit. Donc, de quoi on parle là ? D'une melacha consistant, donc d'une activité consistant à faire passer quelque chose du domaine public ou du chol, du profane, dans le Kodesh. Ça, on n'en a pas parlé tout à fait la première fois. On avait surtout parlé de faire descendre du Kodesh dans le chol. Donc, en autre terme, ce serait une activité qui sanctifie. Alors, qu'est-ce qui sanctifie ? A priori, si on n'entre pas dans le problème des corbanotes, des sacrifices, qu'est-ce qui sanctifie ? Alors là, la Torah, là-dessus, elle est complètement d'une clarté, enfin, je veux dire, comment dire, tout entière là-dessus, c'est l'activité de parole qui sanctifie dans la Torah. On prend un exemple, dans Sefer Bamidbar, Parashat Roukat, donc Moshe Rabbeinu, à Kadesh, ils sont en droit, Israël se plaignent, ils ont soif. Donc Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Mais bon, une histoire, les Bnei Israël insistent, ils cèdent, ils frappent le rocher. Et là, la réprimande d'Hachem est très sévère. Iyan lo'emantem bi le'agdisheni, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, aussi ne conduirez-vous pas ce peuple dans le pays que je leur ai donné. C'est-à-dire que là, il y a eu un défaut à la sanctification par la parole, mais on est passé à un acte. Et ça, c'est au niveau évidemment de Moshe Rabbeinu, ça a été très sévèrement. Dit donc. Le moyen, le seul moyen que nous connaissons pour faire passer un objet du Chol au Kodesh, pour le rendre Kadosh, c'est la parole. Par exemple, on l'a parlé déjà aussi la première fois, c'est en déclarant « ceci est destiné au Hekdesh, au service du Beth Amikdash » que l'on sanctifie un objet. On ne fait rien d'autre, pas un acte, on ne transforme pas, on ne lui met pas une étiquette, c'est un acte de parole uniquement. Alors, donc c'est ça qui nous intéresse ici, c'est que cette parole ici est apparentée à un travail, mais pas n'importe quoi, c'est apparenté à un travail d'un niveau incroyable, puisque c'est apparenté à la parole divine qui, elle, est une parole de création du monde. Donc la parole acte pour nous, c'est, on ne peut pas imaginer plus élevé que ça. Et donc là, ça nous fait rejoindre une idée qui a souvent été évoquée et travaillée ce Beit HaMidrash, c'est la capacité et le devoir de l'homme de se hisser au niveau d'une parole performative, une parole qui est parole acte à la fois. Je me suis interrogé, juste une petite parenthèse, le matin on commence en disant Baruch Shamar Ve'aya Olam, puis après on répète Baruch Omer Ve'ose. Alors, au début on dit donc béni celui qui a prononcé une parole et le monde a été. C'est une oda, c'est une reconnaissance. Bon, on peut le dire comme ça, mais pourquoi on répète Baruch Omer Ve'ose, pour béni celui qui dit et fait. On le répète à nouveau, comme si on voulait dire multiplier cette dimension-là, c'est se dire on a comme le devoir de se hisser. Ça, c'est comme ça qu'on commence en quelque sorte la journée. Quoi. Je ne sais pas, je me suis demandé si cette répétition n'était pas une injonction très forte. Quoi, bon. Alors, on revient à notre problème. Et donc, interdit de faire circuler les objets de Shabbat du domaine privé au domaine public, du Kodesh au Chol et inversement, puisque ça nécessite un travail, même sous la forme d'une activité de parole. La parole n'est pas interdite, Shabbat, bien entendu, sauf les propos qui feraient rentrer du Chol dans le Shabbat. On parle de la semaine, de ce qu'on va faire après. On fait rentrer du Chol et puis on va essayer de le faire ressortir après Shabbat. Ça, c'est interdit. On dit, on ne doit pas non plus parler des mêmes sujets ou étudier de la même manière que dans la semaine. Mais évidemment, une parole Kulo Kodesh, une parole toute de Torah, le Shabbat, c'est évidemment fait pour ça. Donc, attention, on n'a pas dit qu'en Shabbat, il y aurait une restriction de la parole, mais attention, il y a bien cette allusion à ce passage Kulo Kodesh. Bon. Alors, ce qu'on a vu, donc, c'est que dans ce passage, il y a les lois de Shabbat nous disent qu'il y a même un danger de mort. Alors, j'ai remarqué quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs là-dessus, dans ce que nous dit Hannah Arendt. Elle dit, le tout privé, si imaginons que là, on est complètement dans une sphère privée, dans notre traduction, le tout Kodesh. C'est, dit Hannah Arendt, être privé de tout. Être privé du tout, dans notre traduction, c'est le tout profane. Et donc, il semblerait que les séparations sont très fortes. Si l'un absorbe l'autre ou se confond avec l'autre, il y a une part d'individu, une part de quelque chose qui meurt. Alors, donc, j'en reviens au texte d'Anna Arendt, après ce passage par les lois de Shabbat, pour nous dire, pour souligner que le texte d'Anna Arendt paraît nous avertir sur ce danger de confusion, domaine public, domaine privé. C'est très strict, et là, on voit que ça prend une dimension très forte. Mais, trop tard, semble-t-il, l'envahissement du domaine public par le domaine privé s'est largement réalisé. Ce débordement, comme deux vagues qui se superposent, ça c'est l'image qu'elle emploie, a fait émerger dans nos sociétés contemporaines, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, la notion de social, sorte de nouveau domaine, ni privé, ni public. La confusion de valeurs qui en résulte, je la cite, la réduction de l'horizon serait-elle que ce serait une menace de mort pour les sociétés modernes, si on va jusqu'au bout de cette affaire. Donc elle est très pessimiste. Très pessimiste. Pour ça, je vous ai dit, je serais pessimiste aujourd'hui. Et il y a quand même, je me suis interrogé quelque chose sans avoir vraiment bien vu comment on pourrait faire. Dans le langage de notre Mishnah, il y a un domaine qui est ni public ni privé aussi. Et ça s'appelle le Makom Tour. Rabbanan ont élaboré, nos maîtres ont élaboré quelque chose, une autre notion. La notion d'un domaine dit carmélite, qui est ni public ni privé. Bien, c'est curieux, c'est, on dirait de quoi on parle, c'est pas le social là quand même, c'est un peu bizarre. Pourtant, on a bien l'impression qu'effectivement, ça donne l'idée que le social doit avoir des propriétés particulières. Voilà, en tout cas, apparemment, là, pessimisme, le privé s'est rabattu sur le public et réciproquement, et... Qu'est-ce que ça donne comme image ? Je me suis demandé si ça donnait pas l'image qui est employée par le Maharal de Prague et que reprend Benny Lévy sur pour caractériser la galoute romani, l'exil dans lequel on est encore aujourd'hui. Il dit l'empire de Rome, une image. Il dit c'est un empire dévorant, c'est un empire qui dévore tout. Curieux, parce qu'on a plutôt l'impression que c'est un empire, sont devenues les sociétés modernes, avec des états puissants, des nations, des richesses qui débordent, mais ils emploient ce terme de dévoration. Ben, je me suis demandé si c'était pas un peu cette idée du public qui dévorait le privé ou du privé qui avait dévoré le public et l'émergence d'un social qui se met au service de la société, du tout politique, et donc qui ne se constitue pas en réel domaine propre où il pourrait y avoir une vraie parole nouvelle qui émerge. Parce que je reprends une blague, je ne sais plus qui l'a dit, mais ni la tyrannie c'est ferme et la démocratie s'écose toujours. C'est donc une idée qu'il y aurait une espèce de dévoration là, du domaine public par le domaine privé sans qu'émerge vraiment le social comme lieu d'une nouvelle parole. Et peut-être parce que des règles ne sont pas faites, parce que le social, effectivement, est ramené, comment dire, au début, je disais, quoi, c'est un scénario où, dans le mouvement de sécularisation du monde, donc, travail s'écrase devant la nécessité. Bon, donc, il y aurait ce social qui se plie devant le tout société, devant le tout politique, sans émerger comme nouveau domaine. Nos maîtres, quand ils ont parlé du carmélite, ils ont tout de suite donné des tas de règles. C'est devenu un lieu d'élaboration incroyable. Bon. Donc, on aurait ici, je pousse peut-être un peu l'image, mais quand même, l'empire du rien, j'ai trouvé ça très fort quand même, où l'on voit que le social, le travail, tout ça joue un rôle énorme. Donc, il y aurait un travail dépossédé de sa qualité articulée, le kodesh et le rôle, et qui devient une force sociale au service du tout politique, ou pour les intimes, du tout laïque, c'est-à-dire la fonction dirigeante, une avoda, mis au service du fonctionnement de la société qui aboutit à un rien, pour reprendre cette image, de l'empire du rien. Bon. Bizarrement, je suis très long, excusez-moi. Bizarrement, mais je voudrais dire ça quand même, c'est assez curieux. Hannah Arendt a conclu tout son chapitre sur la bonté. Mapitum, la bonté, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Elle dit une phrase un peu obscure, la bonté c'est comme une importante variété de l'action humaine possible. Bon, curieuse définition, il y a d'autres auteurs qui en parlent, semble reprendre Aristote, même la notion d'amitié chez Aristote, et pointe la nécessité de faire émerger dans les relations de société, et singulièrement les relations de travail, une éthique de la générosité, comme si c'était un point qui posait problème. Un point ultime de résistance à ce mouvement d'aliénation de l'individu et son travail. Une petite anecdote rapidement, mais elle est parlante. J'ai un ami sociologue qui m'avait raconté qu'il faisait une enquête dans une usine, et un jour, bon, il enquêtait les différentes catégories de gens qui travaillaient, et les situations de travail. Il y a un atelier, il y a un type qui est dans un atelier, il range des cartons, il demande à l'enquêter, la direction lui dit mais il n'a rien à dire, bon, allez-y si vous voulez. Effectivement, le type, il faisait pas un travail difficile, pas laborieux, pas pesant, il empilait des cartons. Il n'avait pas de stress particulier, pas de revendication particulière, ce n'était pas de harcèlement, ça. Non, le seul problème, l'énorme problème, c'est qu'il était seul tout le temps. Il n'avait personne avec qui il échangeait sur son travail, sur le sens de son travail, sur ce qui se passait en dehors, sur ce qu'on pensait de son travail, s'il était utile ou pas, rien. Et quand il a parlé à l'enquêteur, mon ami m'a dit, le type, il s'est effondré, il a chialé. Il a dit, moi, je suis rien, je suis isolé dans relation de générosité, de bonté, alors c'est pas si anodin que ça. C'est même ce qui resterait d'humain quand tout est dévoré. C'est une sorte de petit os qui reste et qui peut permettre de se relever pour le monde à venir. On y reviendra dans la conclusion si je ne suis pas trop long. Alors maintenant, j'en reviens au travail, puisqu'on a parlé donc de ce curieux chapitre, domaine privé, domaine public, et l'importance que ça avait aujourd'hui dans ce mouvement. Alors, trois notions, travail, œuvre, action. Donc, comment elles se présentent? Pour Hannah Arendt, le travail, c'est devenu la forme dominante de l'activité humaine, la forme principale de l'assujettissement du sujet social. De nos jours, personne n'y échappe au travail. Je m'amuse parce que même on entend dire que le président de la République travaille. Tout le monde travaille, tout le monde travaille. Peut-être que la reine d'Angleterre, il ne travaille pas. Mais travail, c'est vraiment la forme dominante, principale. L'œuvre, selon Hannah Arendt, cette forme d'activité semble avoir connu un échec historique. Bon, et l'action, on va en reparler. Pour elle, c'est le truc le plus important. L'action, la vita activa, l'action, n'a pas pu encore, dirait-on, s'ériger en forme reconnue, sauf l'épisode grec, mais qui ne concernait qu'une petite partie de la société. Vous savez que la vie publique, la police, la cité, donc le domaine de l'action n'était réservé qu'aux citoyens. Et c'était pas tout le monde. Alors, Hannah Arendt, rapidement, le travail pour elle découle de la notion d'animal laborance. C'est le travail du corps, il répond à la nécessité de reproduire la vie, caractère nécessaire du travail, asservissement à la nécessité. Être soumis à la nécessité, c'est par contre être privé de la faculté de délibérer, de décider, de prévoir, de choisir. L'œuvre, c'est l'ouvrage des mains. Il s'agit d'inscrire le monde dans la durée, de fabriquer un monde durable. C'est l'homo faber. Ça s'incarne dans l'idéal artisanal du bel ouvrage. L'action, donc, correspond à une notion de conduite du monde. Une notion, donc, qui, comme je disais, correspond à l'idéal antique de la cité, de la police, figure privilégiée pour Hannah Arendt. Voilà. Ces deux figures, l'œuvre, l'action, pour Hannah Arendt, élèvent l'homme au-dessus de sa condition naturelle. Mais ça ne serait pas le cas du travail, qui reste, alors que c'est pourtant devenu la figure dominante de l'activité humaine. Alors maintenant, je voudrais discuter deux points à propos de la notion de travail, telle que cette notion s'est constituée, a fait tout un. S'est développée dans la pensée occidentale. Première chose, le travail comme labeur. Je vais expliquer pourquoi. Il travaille comme avoda. Mise au service, mais j'y reviendrai donc dans un second temps. Dans un premier temps, le travail comme labeur. Alors, tout le monde, les étymologistes, machin, le travail, ça vient du latin, tripalium, c'est un instrument de torture. Bon, moi, je ne suis pas étymologiste, je suis pas latiniste, mais c'est tout simplement, tripalium, c'est un trépied, c'est un instrument de levage. Dans la profession du bâtiment, actuellement, on appelle ça une chèvre, c'est tout. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on a fait toute une histoire, travail, torture, labeur? Et ça, c'est incroyable, la tradition. Vous pouvez, j'imagine, voir un peu d'où ça vient, etc. Mais toute cette tradition qui veut que le travail, c'est la peine, la malédiction, la rédemption de la faute. Et que donc, le fait de travailler, d'avoir ce labeur, même cette souffrance, c'est pour son salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de travail-labeur? Est-ce que la valeur du travail serait liée à l'effort qu'on déploie pour l'accomplir? Donc, est-ce que la valeur du travail, c'est la valeur de l'effort? Alors, il faut quand même qu'on regarde les versets de Bereshit. Vous avez aussi là-dedans la traduction et les commentaires de Rav Hirsch. C'est assez intéressant. La terre est maudite à cause de toi. C'est par le renoncement que tu en jouiras tant que tu vivras. Elle fera pousser pour toi des épines et de la bardane, et tu devras manger l'herbe des champs. Ce n'est qu'à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Alors, déjà, il y a un point qui me paraît très important pour caractériser l'effort dans le travail. La malédiction de la terre est dite en termes de « ba'avurecha ». Alors, donc, en quelque sorte, c'est comme ça que le pointe Rav Hirsch, c'est pour ton bien. Comment il traduit exactement alors, à cause de toi, mais vous verrez dans son commentaire, il dit c'est en occasionnant quelque chose, ça donne pour un résultat, donc c'est en quelque sorte pour ton bien. Comment il faut comprendre ça? L'effort, le fait d'en baver au travail, permettrait une rédemption de la faute qui a valu à l'homme d'être chassé du paradis et devoir travailler. Bon, c'est pas très satisfaisant quand même, parce qu'on se demande pourquoi il faudrait un verset biblique pour nous expliquer que on transpire dans l'effort, à la sueur de ton front. Pourquoi un verset pour nous dire ça? On sait bien. Alors, donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de valorisation du travail par l'effort. Je suis peut-être un peu long, non? Quoi? Oui? C'est long? Ah bon. Alors, je vais proposer une lecture de ces versets, mais d'abord, on va essayer de démarquer bien clairement cette notion de valorisation du travail par l'effort, ainsi qu'une autre valorisation du travail qui existe par la réussite. De nombreuses citations vont dans ce sens, notamment la Mishnah, mais je ne sais pas laquelle c'est toi qui m'avais donné, c'est la Mishnah de Avot. Ah oui, d'accord. Les Fumtsahara, grâce, ça, je le dis correctement. Le salaire dépend de l'effort. Donc, ça relie le salaire à l'effort, et beaucoup de psukim, de versets qui nous enseignent que la réussite, en revanche, dépend uniquement d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'effort, tout est pris en main par Hachem? Difficile tout ça. Et alors, sur une idée de Moshe, parce que je ne suis pas capable, je n'ai pas encore fait de sioum suffisant pour en dire ça. Il y a un texte qu'on récite à chaque sioum, à la clôture d'un traité d'études, dans lequel on dit « À nous Amélim, VM Amélim, nous faisons des efforts et eux aussi font des efforts. À nous Amélim, ou Mekablim Sachar, VM Amélim, VNam Mekablim Sachar. Nous, nous faisons des efforts et nous sommes rétribués pour cela, et eux font des efforts et ne sont pas rétribués pour cela. » Donc, on dit ce texte pour mettre en valeur la notion d'effort liée tout particulièrement à l'étude de la Torah, où il ressort que la notion d'effort n'est pas vraiment la même chose que la notion de... n'est pas corrélée à un salaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des efforts, il n'y a pas forcément de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, donc il faudrait pour ça distinguer la notion de valeur de la notion de salaire. Alors, il y a aussi une Guémara qui raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui rend visite à Rabbi Eliezer qui est souffrant. Et je cite la Guémara Sanhedrin, Rabbi Akiva sourit. Rabbi Eliezer, et les disciples aussi je crois, s'étonnent de cette joie qui semble déplacée. Rabbi Akiva lui dit, en voyant ton huile et ton vin qui ne tournaient pas, je craignais qu'Hachem t'ait fait consommer ton monde futur sur terre. C'est-à-dire qu'il a... il réussit, il a du vin, de l'huile qui ne tourne pas, il est rétribué. Il a dans ce monde-ci le salaire de toute sa vie consacrée à la Torah. Alors, il dit, je craignais donc que Hachem t'ait fait consommer ton monde futur sur terre. Il te rétribue déjà et donc tu n'auras plus rien dans le monde futur. Mais en voyant tes souffrances, j'ai compris qu'il n'en était rien, d'où ma joie. C'est-à-dire que ton salaire dans le monde futur reste encore inscrit. Alors, on a cette idée que c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on qu'on réussit ici-bas, qu'on a forcément une rétribution de tout ce qu'on fait. Mais, bon, je vais revenir, on reviendra éventuellement là-dessus. Je reviens à la lecture des psoukim, là, sur de Bereshit. Moi, ma lecture, hein, c'est un peu orientée comme ça. La malédiction de la terre dont on parle, pas du travail. Arura Adama, pas le travail. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? La malédiction de la terre, je propose un peu de réfléchir comme ça, c'est qu'elle ne donne plus ses produits de manière immédiate, sans médiation, sans différé. Maintenant, la malédiction est telle que la terre, elle va donner des fruits, oui, mais avec du temps, avec du différé. Et dans ce temps, il peut se passer plein de choses, il peut pousser des mauvaises herbes. La graine qu'on va mettre en terre, elle va peut-être pourrir, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, si elle va germer. On va se demander s'il y aura de la pluie, de la sécheresse. Je peux tomber malade, il peut y avoir des doryphores, il peut y avoir une grève des transports, il peut y avoir plein de choses. Il y a des gens plus optimistes qui diront, c'est pas grave, on va gagner au loto. Mais voilà, quel que soit l'effort que je dépense dans mon travail, je sais que j'enclenche un processus, ça c'est certain, mais je ne sais pas du tout ce qu'il va donner. Donc ma souffrance, peut-être la sueur de mon front, c'est que je vais devoir m'arracher à l'immédiat, je vais devoir accepter l'abandon qui va me conduire à espérer et à construire dans l'attente, par ma prière, ma confiance en Hachem. Je peux même peut-être y trouver une joie, un bonheur supérieur à toutes les futilités ou vanités de la vie. Terme aussi pas par hasard, parce que Hannah Arendt parle du domaine privé, du domaine de la nécessité comme un domaine aussi de futilité. Donc je vais devoir exprimer ma demande, ça transpire, construire ma confiance par un travail de parole. Et est-ce que c'est pas non plus ce que la Guémara souvent nous dit, et qu'elle nomme, en particulier dans la Guémara Sanhedrin, un amal pé, un travail effort de parole et d'étude? Il y a d'autres passages, par exemple la Gemara Pesachim dit que l'effort, celui qui se fait à la sueur du front, il est qualifié, donc celui dont on parle là, il est qualifié de deux fois plus difficile que la souffrance de l'enfantement ou de la sortie d'Égypte ou de la Géoula. Au point que la Gemara dit que c'est Hachem lui-même qui va prendre en charge cette souffrance, tellement elle est forte. Donc, il y a bien cette notion. Mais ce n'est pas une souffrance, on pourrait dire, de punition. C'est une difficulté qui fait transpirer. Une difficulté, peut-être, pour reprendre nos catégories, à faire monter du chol dans le Kodesh, ce qu'on demande par notre prière. En revanche, l'effort, on pourrait dire inhumain, qui est parfois imposé à des hommes, est-ce que c'est pas mamash un chilou l'Hachem, comme la maladie ou la souffrance, une profanation du nom divin? Parce que on voit bien, si la souffrance, elle est portée par Hachem, elle est portée par tout le travail qu'on peut faire. Donc, quand il y a des gens pour qui effectivement on impose des conditions de travail absolument inhumaines, c'est une profanation, c'est quelque chose qui ne va pas dans le monde. C'est comme la maladie. Mais voilà, on pourrait dire que tout ça fait germer une idée de travail peut-être selon la Torah. Revenons à notre Mishnah de Shabbat, notamment la liste des 39 travaux interdits. Le premier travail interdit par la Mishnah, qui nous citait par la Mishnah, c'est précisément Zoréa, l'action de semer une graine, qui se caractérise, comme on vient de l'expliquer, par une mise en terre, un abandon. Donc, dans d'autres mélachot, on retrouve aussi cet enclenchement d'un processus. Par exemple, Bichoul, la cuisson. La mélacha consiste simplement à mettre au four, avec comme condition que la cuisson ait bien lieu, mais l'intervention de l'homme s'arrête dès l'enclenchement du processus. Et donc, voilà, on va arriver peut-être à se proposer cette définition du travail, minimum, mais elle a de grandes conséquences. Travail, ça serait enclencher un processus. Gardons bien ça en tête. Maintenant, un second point donc, que je voulais discuter un tout petit peu, Le travail en termes d'avoda, de mise au service, en service, de mise d'une puissance au service de quelque chose. De quoi il s'agit? Alors là, je vais reprendre un peu Hannah Arendt. La notion de travail qu'elle utilise paraît traversée par deux tendances. Souvent parlé, une tendance vers l'affranchissement, la libération. Pas très bien toujours de quoi, mais c'est pas tout. Bon. Et l'autre tendance, c'est servitude-aliénation. Apparemment, deux tendances contradictoires. La première tendance, affranchissement, libération, a consisté dans une première période à extraire le travail de la sphère privée, on l'a vu, hein, ça a libéré, comme elle dit, et en même temps, se sont effectivement élaborées les notions modernes de travail, en même temps que les notions modernes de travail, se sont élaborées les notions de sujet, de contrat. C'est la période, en gros, du XVIe siècle, ça. La conception du travail considérée comme dépendance et coupée de la citoyenneté active se transforme profondément, devient source de nouvelles valeurs morales, d'un contrat entre l'individu et la société. Donc quand je dis XVIe siècle, c'est effectivement, par exemple, c'est l'image du dieu mortel qu'est l'État, comme chez Hobbes, et donc le travail est associé à un projet libérateur, individuel, social, mise en place de ces notions de contrat, l'État, etc. Cependant, ce qui devient très rapidement central, c'est plus la notion de travail comme quelque chose d'utile, sa capacité à répondre à un besoin ou à être support d'un contrat social. Ce qui va devenir très rapidement central, c'est la productivité du travail. Le problème de la productivité du travail, il explose, il devient le problème central de la société moderne. Le travail doit être donc soumis au couple. Quantité de production, temps, affranchie de ses limites physiques par la machine, non pas qu'elle remplace l'homme, mais au contraire qu'elle décuple ses capacités à condition que celles-ci soient exprimées en tâches et en temps. Tâche-temps. Donc l'époque moderne, je cite Hannah Arendt, échoue à instaurer une ère de liberté universelle, mais aboutit à courber toute l'humanité sous le joug de la nécessité, on pourrait dire sous le joug de la productivité, par exemple, puisque ce modèle de la productivité s'est étendu à toutes les activités, y compris celles de service, qui ne peuvent pas se mesurer en tâche-temps. L'exemple des hôpitaux, c'est l'exemple de nombreuses activités où on ne peut pas décomposer en tâche-temps, et pourtant, c'est le règne de la productivité. Alors, ce double mouvement, sortie du travail de la sphère privée, soumission au joug de la nécessité, ça ressemblerait bien à ce qu'on pourrait appeler une aliénation. Et ce terme, bon, il a été souvent employé dans la littérature, mais là, je proposerais peut-être de réfléchir comme ça. Je me demande si ce n'est pas une version un peu faible, mais de ce qu'on appelle une avoda zara. Avoda zara, habituellement, c'est ce qu'on appelle une idolâtrie. Mais je reprends une traduction, on pourrait dire comme ça, que on a un peu réfléchi parfois avec Rav Gronstein. Avoda zara, ça veut dire aussi, c'est une idolâtrie, mais c'est un service qui rend en quelque sorte l'homme étranger à lui-même. Et donc, là, on aurait un travail aliénation, c'est-à-dire un travail qui rend en quelque sorte l'homme étranger à lui-même. Donc, pour ça, je dis, c'est une version faible. Il n'y a pas une prosternation devant des idoles, etc. Mais c'est quand même une version d'une avoda, d'un service qui rend l'homme étranger à lui-même, mais autant elle est faible peut-être en termes de contenu comme ça, mais autant elle est expansive, puisqu'elle maintenant, c'est toute la planète qui est soumise à ce travail étranger, ce travail qui rend étranger un peu l'homme à lui-même. J'ai dit, c'est une version très pessimiste des choses. Encore 5-7 minutes de patience. Je vais aller très vite sur l'œuvre. Hannah Arendt dit d'ailleurs qu'elle trouve que l'homo faber, le fabricant qui normalement devrait être seigneur, maître de la terre, qui correspond bien à l'idée biblique selon laquelle la terre a été donnée à l'homme pour qu'il la maîtrise, dit bon, c'est une figure qui est un peu échouée. Néanmoins, elle dit l'homo faber, il avait aussi cette façon qu'il avait de se servir de la terre en quelque sorte, Il était parfois un prédateur, un destructeur de la nature. Mais ce qu'elle dit, surtout son problème, c'était que le danger que chez l'Homo faber, la fin se transforme en moyen, qu'il y ait un mélange sans arrêt du but et de l'outil. Et dit ça, c'est le problème de l'Homo faber. On retrouve un petit peu, là, notamment dans le récit de Kafka sur Babel, l'idée que la technique était devenue la finalité au lieu d'être l'outil de l'homme. Alors maintenant, j'en reviens à un dernier point. C'est l'action. Très important, puisque pour Hannah Arendt, c'est la figure la plus élevée de l'activité humaine. Elle dit comme ça: agir, c'est entreprendre, commencer, guider, mettre en mouvement, introduire une nouveauté dans le monde. C'est avec la création de l'homme que le principe de commencement est venu au monde. C'est le principe même de la liberté. Bon, on a vu pour Hannah Arendt l'espace de l'action, de l'agir, et la cité, polis en grec, qui pour Platon, Aristote, comptait d'ailleurs au premier rang l'édification des lois, la construction de la ville. Agir, c'est acte et parole à la fois. Mais justement, c'est un peu bizarre. Hannah Arendt, alors qu'on a vu tout à l'heure que l'histoire de parole-action pour nous dans la Torah, c'est un truc fondamental, elle n'introduit la parole que justement au stade de l'action. Comme si le travailleur animal laborans, l'homo faber, il n'avait pas tellement de. N'était pas dans ce registre de la parole. Mais certains auteurs présentent l'action d'une manière un petit peu différente. J'en dis quelques mots rapidement. Vous avez un texte d'Habermas dans un ouvrage qui s'appelle L'agir communicationnel, où il présente plusieurs formes d'action. Il parle de l'agir téléologique, hein, pas théologique, téléologique. On agit en fonction d'un télos, en grec, c'est un but. Par exemple, le salut, on agit pour le salut, pour le bonheur, pour les droits de l'homme. Mais d'une certaine manière, cet agir-là, il est borné. Un horizon borné. L'agir régulé par les normes. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la normalisation de la sphère privée résultant de l'envahissement réciproque d'un domaine sur l'autre. Et il parle de l'agir communicationnel qui relève des interactions des sujets. Dans ce modèle d'action, nous dit Habermas, le langage occupe une place prééminente. Et tous les vœux d'Habermas et pas mal de sociologues contemporains ils font effectivement essayer de faire émerger le modèle de l'agir dans nos sociétés. Seulement, j'ai un peu l'impression qu'il y a une impasse sur l'agir communicationnel chez Habermas et d'autres. Pour qu'il y ait communication et langage, il faut qu'il y ait du différent, du séparé. Séparé, c'est Kodesh chez nous. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a une impasse sur cette question. En revanche, dans la Torah, la parole est première. La avoda, c'est servir le monde par la prière parole. La première occurrence du mot, elle vient pour qu'Adam Arishon demande la pluie. Melacha aussi, ça renvoie à l'idée de malach, d'ange, c'est-à-dire des ordres, paroles divines, de création du monde. Donc, l'action, si on y accorde toute l'importance que on devrait là-dedans, dans cette réflexion, ça a une phase d'initiation, une action, elle commence, et puis elle est poursuivie. D'autres vont peut-être y coopérer, y participer, peut-être porter l'entreprise, ce qui s'est initié, jusqu'au bout. Mais Diana Arendt, quelque chose d'intéressant, elle dit lorsqu'on enclenche un processus, on entre dans l'ordre de l'illimité, puisque ce processus peut durer jusqu'à la fin des temps, dit-elle. C'est curieux. En retour, on peut déclencher des processus dont l'issue demeure incertaine ou imprévisible, de sorte, dit-elle, que la fragilité devient la caractéristique essentielle des affaires humaines. Alors, je vais terminer après là-dessus, puisqu'Hannah Arendt nous parle de processus, d'action, donc qui s'initient, qui peuvent nous amener jusqu'à la fin des temps. On va aller voir un peu ce qui se passe à la fin des temps. Alors, il y a effectivement dans la Guémara Avodah Zarah, une mise en scène de la fin des temps. Donc vous avez le texte aussi, hein, on va pas prendre le temps de le regarder en détail, mais les empires, là où Israël a été en galoute, se présentent devant Hachem, d'abord les Romains, puis les Perses. Ils sont justement présentés comme dévorants, les compares à un ours, par exemple. Donc, on a vu que cette idée de dévoration est un peu curieuse. On peut en faire quelque chose, là, sur ce rapport entre public-privé. Bon. Et alors, donc, les empires se présentent devant Hachem et réclament une part dans le monde futur, au titre qu'ils ont agi, action, en construisant des ponts, en établissant des marchés, en faisant des tas de choses. Donc, ils se situent bien dans le registre de l'action. Et ils disent carrément avoir agi pour que les Juifs puissent se consacrer à l'étude de la Torah. Eux, ils ont pris en charge l'organisation de la société pour laisser les Juifs se consacrer à leur activité essentielle, leur mitzvah la plus importante, l'étude de la Torah. Et alors, dans cette Guémara, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils ne sont pas traités ni de menteurs, on ne leur reproche pas d'avoir pillé, mis en esclavage, détruit plein de choses. Bon, si, on dit qu'ils sont un peu dévorants. On ne leur reproche pas leur méthode, ni même leur valeur, rien du tout. On leur reproche, ça c'est dans le texte de la Guémara, quelque chose d'assez étonnant, on leur reproche d'avoir agi pour leur propre intérêt. Les tzorer hatzmechem. On a envie de dire que c'est quand même assez normal qu'ils aient voulu agir pour leurs propres besoins, pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce qu'il leur est donc reproché? Justement, il leur est reproché d'avoir agi pour eux-mêmes. On pourrait dire pour le même. Pas de générosité. C'est ça qu'il leur est reproché. Pas de générosité, c'est n'avoir aucune ouverture, ni vers le haut, ni vers les autres. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que Hannah Arendt, comme d'autres auteurs, ont senti quelque part, c'était nécessaire d'introduire la dimension bonté, de générosité, voire d'amitié, ça c'est Aristote, dans le travail. Comme si c'était quelque chose de résistant à cette dévoration ou cette aliénation qu'ils ont décelé dans ce travail, dans ce travail mis au service d'une sorte d'avodazara, comme je l'ai dit. Et donc, ça intrigue, parce que effectivement, On a cette dimension-là qui semble brusquement prendre une importance auquel on ne s'attendait pas. C'est pas une niaiserie, la bonté. Visiblement, là, ça a l'air de quelque chose d'important. Alors, à côté de ça, effectivement, côté des empires qui ont agi pour eux-mêmes, la Torah, nous invite à étudier pourquoi. Pour ouvrir de nouveaux processus dans le monde. Pour l'ouvrir sur le séparé, sur le Kodesh. Donc la générosité, quel rapport avec tout ça? Ça, je l'ai tiré aussi d'une étude que j'ai faite avec Rav Grunstein sur Parashat Ekev. Là aussi, il y a un os bizarre, c'est le talon. Le talon, il est à l'articulation de la dimension verticale et de la dimension horizontale. Kodesh, Chol. Quand on regarde un peu là dans ce que nous disent les commentaires que font Chazal sur le premier mot de cette paracha, Ekev, simplement le talon, il montre bien qu'il y a une sorte de mise en résonance qui se fait dans le monde, mise en résonance au sens physique du terme, c'est-à-dire une résonance, ça amplifie à l'infini les choses, entre le chesed d'Hachem dans le monde, cette dimension verticale, et la petite bonté, le chesed dans les dimensions horizontales qui passe par des petites etzvot, et donc cette résonance incroyable qui est mise dans la notion de générosité semble amplifier le monde. Et donc je terminerai comme ça en m'excusant, j'étais vraiment très long, pour dire que à ce moment-là, la générosité dans le travail, ce serait effectivement une valeur de Torah.
fois, même s'il est faux, de parler de chabbat, de travail, trouver un travail induit. D'autre part, au sujet du côté vital, du côté etc., bon, sauf pour des exceptions comme Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être un peu à notre époque, pas peut-être à même une époque mécanique, pour certains individus, le travail est vital. Et d'ailleurs, le patrouille qui oblige à la solidarité vis-à-vis de ses frères dans le monde du travail, c'est le patrouille Païtra 25-35, ton frère juif vivra avec toi, vivra. Donc le travail, la solidarité dans le travail, le terme employé pour la clé est vivra avec toi. Donc si je ne suis pas solidaire dans le domaine du travail, je n'accomplis pas mon devoir religieux. Maintenant, il y a aussi par rapport à la Gemara Shabbat, on voit qu'il y a deux cas. Il y a deux cas de Riou, et il y a quatre cas de Riou, et il y a quatre cas de Patour à Balatour. Alors on peut se demander pourquoi c'est à tour alors qu'il n'y a qu'un seul qui a fait toute la mélacha et le second n'a fait que être passif. En fait, on explique parce qu'il a incité l'autre à profaner. Lui, il n'a rien profané, mais comme il a incité l'autre à profaner, donc c'est à tour pour lui ce qu'il a fait. Maintenant, on peut se poser la question par rapport au rapport des mélachot de Shabbat et du travail. Si on fait le parallèle, on peut dire que du fait, parce que je me suis souvent pour poser la question, et là vous m'avez quelque peu éclairé, pourquoi ce côté-là, pourquoi l'autre il n'invite pas? Bon, je sais que l'admara est présenté qu'à partir de lui, et pourquoi il ne fait pas rentrer chez lui, pourquoi ce jeu-là de passer à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Quelque part, on peut dire que si on ne joue pas le rôle de solidarité jusqu'au bout, dans la transgression du Shabbat de l'autre, même dans le fond, alors que moi je fais Shabbat, c'est à tour pour moi, si je n'ai pas joué le devoir de solidarité jusqu'au bout. Une obligation de la Torah, pas simplement une valeur. Il y a tous les coutumes qui le marquent très fortement.
Khazak, je ne sais pas, commentaire. Un commentaire. Merci. D'autres commentaires ou questions? Peut-être ça allait, je t'en prie, ne pose pas des questions. C'est toujours des questions, j'ai du mal à y répondre. Non, je blague. J'ai été un peu long, alors je vous sens bof comme après un tchoulent. Blum.
Maintenant, s'il n'y arrive pas, il y a le devoir de continuer jusqu'au bout. Mais normalement, on considère qu'à 6 ans, il a atteint une maturité pour pouvoir gagner deux fois vite. Et à 6 ans, ça ne m'est jamais rentré dans la tête pour aller en plus de 6 ans. Et un jour, il a mis pour tenir la quête qui m'y plaît. Mais quelques heures, c'est tout. C'est-à-dire quelques. Et le fils, il dit, c'était pas le côté travail du jour, c'était le côté travail un petit peu valorisant, etc. Le fils était très content, etc. Ça ne rejoint pas du tout le fait au Moyen-Âge, ou même. Maintenant, où on faisait travailler les enfants dans des conditions terribles, etc. C'est peut-être pour ça que ça peut nous choquer. Ce côté-là, qu'un enfant a 10 ans, il a un enfant à 10 ans, il peut faire certaines tâches, et en rendant ça très enfant, très humain, etc. Et ça peut même le revaloriser. Voilà. Je lis ça. Hein? Je reprends la question. Non, je sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Si je peux me permettre.
Allons-y.
Si j'ai bien compris l'interprétation de la Gemara Vodazara, vous avez dit à un moment donné que Goïm avait pour mission d'organiser le monde pendant que les Juifs l'ernaient.
C'est l'argumentaire qu'ils disent. C'est l'argumentaire qui donne.
Disons que je suis un peu choqué par cette idée. Moi, j'aurais pensé que l'ernaie aidait à organiser le monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par on laisse au Goïm le soin d'organiser le monde?
Ah non, non, c'est pas ça qu'on dit. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Bon, ils viennent, ils se présentent et ils essayent de dire nous, on a le droit à une part au monde futur, et donc ils essayent de justifier leurs actions en disant mais ce qu'on a fait, alors qu'en plus on ne nous a pas donné la Torah, parce que dans la seconde partie, ils vont reprocher qu'on ne leur a pas donné la Torah, donc on ne les a pas donné leur chance, bon, ça va être discuté. Mais ils disent voilà, nous on a fait tout ça, mais qu'est-ce que vous nous reprochez? En faisant tout ça, on a permis aux Juifs d'étudier la Torah. Ce qui est curieux, c'est que la Guémara dit non mais ça va pas, qu'est-ce que vous dites, espèce de menteur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne pouvez pas prétendre une chose pareille. Et c'est pas ça qu'il leur est reproché exactement. C'est ça ce que je trouve très, très curieux dans cette Guémara. Il leur a dit bon, espèce d'imbécile, ce que vous avez fait, on vous le reproche au titre de manque de générosité. Ben ouais, c'est pas pour leur dire, c'est comme ça que vous auriez eu l'ordre de fonctionner. Oui, il me semble que ce qui a été dit dans la première séance, c'est pas simplement que, par exemple, mon limoud me donnerait une bonne conduite dans mon travail. Parce que j'étudie, j'aurai des valeurs morales ou un meilleur comportement. C'est pas que ça. Je crois que ce qui a été expliqué la première fois va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est le travail lui-même qui est une façon, effectivement, de mettre de la Torah dans le monde. Ce qui est assez une idée un peu étonnante, quand même. Pardon ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, c'est ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a un point qui est souvent discuté, qu'on a dans Gemara Berachot, par exemple, qui est l'opposition entre l'imoud et le travail. Le temps que je consacre à mon travail, est-ce que c'est du temps que je soustrais à l'étude? Donc, il y a toute une discussion pour savoir comment est-ce que je m'en tire de cette tension entre les deux temps. Est-ce que sur les champs de la première séance, tu veux rajouter quelque chose, Luther?
Seule différence.
Il y a effectivement quelque chose qui est un peu étonnant. Dans l'erreur, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu quand il a frappé le bâton, le rocher, il a frappé justement avec son bâton de dirigeant, son bâton politique. Au lieu d'effectivement de ce qu'il devait faire à ce moment-là, c'était un Kiddush Hashem en élevant sa parole humaine au niveau d'une parole divine. Donc c'est assez troublant parce qu'on a cette image-là qui semblerait d'une très grande méfiance sur ce que tu dis à propos de police et du politique. Alors, d'un autre côté, moi, ce qui m'a, si je reprends un petit peu ce que j'avais essayé de dire au tout début, quand je disais que cet espace qui émergeait, comme l'espace carmélite, qui est dû, si on reprend un peu la façon dont Hannah Arendt a présenté les choses, comme si c'était l'espace du social, là où s'exprimerait alors à ce moment-là effectivement une parole politique. On a vu que les rabbanim ne veulent pas du tout faire un makom ptour qui soit complètement dégagé sans qu'il y ait du tout de dinim ou de halakhot qui s'applique dessus. Et ils ont fait une construction absolument incroyable sur le domaine carmélite. Donc on a aussi l'impression qu'ils nous invitent à mettre dans le domaine des relations horizontales une quantité de mitzvot, de dinim, de façon de gérer la relation avec les autres, y compris dans le travail. Donc là, il y a par contre, je pense que c'est pas du tout un domaine qui passerait à la trappe. Alors sur ce qui correspond au domaine public proprement dit, là, ça serait une autre discussion sur tout ce qui entoure le roi et donc toutes les contraintes, toutes les règles qui s'appliquent à la conduite de la royauté. Là, donc on pourrait réfléchir sur l'image que ça donne d'un politique qui, effectivement, bon, pour reprendre ce que disent d'autres, l'image d'un pouvoir plus pastoral que d'un roi d'une société au sens habituel du terme. Et c'est vrai que là-dessus, on avance assez prudemment. Il n'y a pas énormément de choses de clair. Il y a un certain nombre de limitations, de règles qui sont données, notamment au roi, de contre-pouvoir. Moshé, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui. Quoi? On dit derrière le rabbin. Et Moshé ajoute que dans la première séance, justement, on avait dit dans la Mishnah de Avot, c'était quand même très interpellant, puisque c'était d'un côté aime le travail et est la rabbanout, c'est-à-dire que quand la fonction dirigeante prendrait la place du travail et de sa valeur, à ce moment-là, il faut carrément la fuir. Thank you. Je vais m'en tirer parce que cette question est redoutable. Je m'en tirerai en disant que normalement, on t'a abordé effectivement un peu ça, je pense, plus directement dans les séances ultérieures. Non, il dit, est-ce que le monde religieux juif, bien entendu, faisait quelque chose pour justement aider à combattre un certain nombre d'abus, le fait que les gens travaillaient dans des conditions parfois très dures et épouvantables. Alors il a dit, bien sûr, on a l'obligation de tzedaka, il y a une entraide, etc. Mais on ne peut pas rentrer dans le détail, pas rentrer dans le dans le...
Non, mais ça, ça a été une volonté de Napoléon de séparer entre le religieux et le social.
Oui,
c'est une question privée. C'est une situation. C'est une façon de travailler sur les problèmes. Manière privée. différente, plutôt, d'une manière politique. Oui, mais ça m'embête de dire ça, mais ça, je ne sais pas très bien comment on peut le faire. Quoi, l'aide, tu veux dire ? D'agir dans le monde, c'est plutôt d'une manière privée que politique. Je crois que c'est un peu difficile à dire. On peut prendre l'ascenseur. Non, donc ce qu'on a dit simplement, c'est que la définition du domaine privé shabbatique, c'est qu'effectivement il est limité en hauteur, hein. Ça c'est une chose. Dans ce qu'on avait vu la première fois, je pense, c'était justement que quand le travail est permis dans la semaine, si on peut dire comme ça, à ce moment-là, bien entendu, l'articulation entre la dimension horizontale et verticale joue pleinement. C'est le travail qui, justement, est une façon de sanctifier ce qu'on fait, ou bien, au contraire, de permettre, de faire rentrer du Kodesh dans le rôle et du rôle dans le Kodesh. Donc, les dimensions peuvent jouer tout à fait. Ça fait pleinement. Ce que les lois de Shabbat viennent nous ajouter là-dessus, c'est que justement elles permettent à un moment donné de reprendre bien quelle est la dimension de ces domaines dans lesquels toute la semaine on peut travailler à leur articulation et leur liaison. Donc ça ne veut pas dire que dans la semaine la dimension verticale soit rabaissée.
Non, mais
possible.
Quand vous avez parlé du port tout à l'heure et quand vous avez évoqué justement cette étymologie de torture du travail,
oui.
Vous n'avez pas parlé de la finalité. Or, si vous regardez des joueurs de foot amateurs et des joueurs de foot professionnels, ils font exactement le même effort, mais ce qui fait que pour les uns c'est un travail, c'est un engagement dans la durée, qu'ils aient envie ou qu'ils n'aient pas envie, je veux dire, c'est toute cette dimension du moment où la volonté de faire la chose vous échappe. Si par exemple moi je décide de suivre un cours de poterie ou de n'importe quoi, je ferai exactement le même travail qu'un potier, simplement ça va être très limité au moment où ça me fait plaisir. Et dans la dimension disons de travail, et notamment de travail salarié, de travail obligé ou même de travail parce qu'on est obligé, même dans le cadre de la vie, il y a un travail obligé. Je crois que c'est le moment où justement ça ne me fait plus plaisir et c'est là que commence cette torture.
Non, je. Oui, bon. On a dit que ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement le travail maintenant est Anna Arendt le dit bien, est soumis au joug de la nécessité. C'est pas de la rigolade, hein. Bien sûr. Tout le monde sait que le travail c'est difficile, on a parlé aussi l'autre fois. Non, ce que je pense que ce que je voulais évacuer, c'est la notion d'effort rédemption. Je ne dis pas que le labeur, la difficulté, la peine n'existent pas. C'est pas vrai. La Torah en parle. On a dit qu'il y a des raisons à ça. Mais ce que je voulais évacuer, c'est l'idée que c'était une espèce de chose inhérente au fait que il y avait une faute et que le travail était un moyen en fait de réparer cette faute. Personnellement, je déteste cette idée. Ce qui ne veut pas dire que j'ai trouvé que brusquement à cause de ça, le travail est subitement devenu quelque chose de simple et facile. Il y a bien sûr une notion d'effort, mais on a essayé de voir dans quel sens la Torah essayait de nous faire travailler sur cette notion d'effort justement, d'élaborer là-dessus.
Des Danaïdes, par exemple, les bonnes femmes qui mettent l'eau dans le tonneau
Oui, c'est ça, ou le type qui était isolé, complètement isolé dans son atelier, je ne sais pas du tout pourquoi il travaille, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert. Il y a une torture effectivement morale à ça. Ça c'est clair. Mais ça, c'est un peu inhumain. C'est ce que je trouve quasiment de l'ordre du Rilou Lachem à ce moment-là. Parce que là, on n'est plus dans ce qu'on voudrait que le travail puisse être, où effectivement, ce n'est pas tellement l'assignation d'une finalité, mais c'est, comme on avait vu, plutôt le fait de prendre la mesure de ce qu'on participe à un processus ouvert. Peut-être on ne sait pas effectivement où il va. Ça, c'est une des difficultés. Ce serait plus rassurant d'avoir un horizon fermé, on sait qu'on travaille pour des valeurs superbes, etc. Ça, peut-être que la Torah nous demande un effort particulier là-dessus, en disant qu'il est possible qu'effectivement on participe à un processus sans exactement savoir où il nous conduit. Principe même des temps messianiques, on ne sait pas ce qu'ils seront, on ne sait pas. Tu voulais dire quelque chose?
Sur la finalité du
Oui, j'ai dit cette notion-là. Moi, personnellement, je l'aime pas. Je la prends pas. Elle peut exister, mais moi, personnellement, je la prends pas. Hein? Oui, elle a plein de connotations. Oui. C'est un peu ce que Berman s'appelle l'agir normatif, d'une certaine manière. Et on arrête, si on se pose des questions. Oui, je t'écoute, Daniel.
Voilà. Il y a une notion qui m'a semblé très intéressante, c'est l'idée de, quand Anna Arendt dit que danger de confusion. Donc, quand moi j'entends danger de confusion, j'entends difficulté d'élaboration de frontières et de séparation. D'accord ? Donc, il y a quelque chose là qui est un risque de ne pas séparer.
Même pour mettre en mouvement, tout simplement. Même, ne serait-ce que pour mettre en mouvement.
Mettre
en mouvement, sans forcément de sens. Sans dirigeant.
Sans dirigeant.
Étonnant quand même.
Et à ce moment-là,
tu la comprends parfaitement bien, on dirait. C'est ça, bah, cela dit, on ne met pas en mouvement n'importe quoi. Oui, mais tu dois avoir en même temps un retour quand même sur ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en même temps tu mets en mouvement, mais tu ne vas pas dire après, moi je m'en fiche de ce qui se passe. Tu dois être complètement obligé de faire ce retour. Donc c'est la Mishnah d'Avot hein, qui dit Ehov et ta Melacha et Sna et ta Rabbanit. Pardon. Ah, il y a elle aussi, parce que juste après. Excuse-moi, tu peux répéter, quand on prend... Alors, le fait qu'on dise que le travail peut rendre étranger, c'est, en gros, j'ai voulu essayer de mettre ce terme très fort, mais qui interpelle beaucoup de ce que serait indécence d'une Avodah Zara dans ce mouvement d'aliénation, où il y a à la fois l'extraction du travail de la sphère privée, son passage complètement dans une sphère sociale, et cette aliénation, je me méfie des termes parce qu'ils sont très connotés, mais je pense, tu vois à peu près ce que je veux dire, cette aliénation qui fait que ce travail est mis au service de la société. Donc, de ce point de vue, il y a un double mouvement, sorti de la sphère privée et mise au service d'un quoi, une société, qui est cette forme faible, mais de travail qui rend l'homme étranger à lui-même. Hein, c'est ça. Alors, tu disais à partir de là... À dépasser ça. Comment dépasser ça? Je sais pas. Je pense. Comment, elle? Ah non, non, c'est on a bien vu, c'est dangereux, il y a danger de mort. Hein, tout à fait. C'est ce qu'on a, c'est cette injonction assez étonnante, parce qu'elle paraît un peu bizarre, mais qui prend effectivement toute sa force par rapport à une remarque comme celle que tu viens de faire. Aime ton, le travail, ça veut dire justement une possibilité complètement de le réinvestir avec un certain nombre de valeurs pour lui donner un sens ou je sais pas quoi, ou l'insérer dans des valeurs de générosité. Bon, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui se joue effectivement là-dedans. Par rapport à ça, on dirait que la réponse, elle tient cette injonction étonnante. Service d'achat, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais elle va me dire qu'est-ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc,
fait face au problème moral qui se posait. C'est-à-dire que peut-être ne pas être étranger à toi-même, c'est-à-dire rester en place, ne pas dire je démissionne, et puis être là, quel que soit ton niveau dans la chaîne, ne pas dire je n'ai pas le droit en tant qu'individu d'avoir en la qualité de pivot, pas un orgueil, mais c'est-à-dire une personnalité qui vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il me demande de faire des choses qui me rejoignent moi-même dans mon corps intérieur, et de ne pas m'épater quand je vois des choses qui contredisent mon sens de la Torah, de l'éthique, etc.
Simplement, quand j'ai employé ce terme d'Avoda Zara, c'est évident parce qu'il y a Avoda aussi dedans. C'est-à-dire que le renversement de l'Avoda Zara, c'est la Avoda. Voilà, c'est un peu ça la réponse, si tu veux. Alors maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, bon, qu'est-ce que ça veut dire, d'où toute cette élaboration qu'on a à faire. Mais ce mouvement d'aliénation qui rend étranger à soi-même, effectivement, il n'est pas, c'est pas l'horizon borné qui empêche aucune perspective, puisque il peut, on pourrait dire, se retourner en avoda, si on l'inscrit bien dans ces mouvements de relation Kodesh Rol dont on a parlé. Karine.
Oui, interprétation de Torah de ces termes, et je me demandais si en fait en gros ces juifs, Marx, Anna Arendt, enfin, tous les autres, leur spécialité c'était oublier qu'il y avait un spirituel et de travailler ailleurs. Or moi je me demande si s'ils n'avaient pas été juifs, ils n'auraient pas cherché davantage à comprendre précisément le spirituel dans leur propre analyse. C'est-à-dire quand tout à l'heure vous disiez, ah puis Anna Arendt, de quoi elle colle quelque part, oui, il y a aussi la générosité, on ne sait pas trop où elle l'a mis, elle n'a pas pu s'empêcher de la remarquer, mais effectivement dans le système public-privé, qui est formidable, intéressant et formidable dans les manuels pédagogiques, mais en réalité qui n'explique rien et ne conduit à rien, et elle a bien dû constater qu'il y avait certains phénomènes qui échappaient à son analyse, elle les a mis en annexe. Mais maintenant, moi je me demande, si on sortait de la Torah, se demander si effectivement il n'y a pas des choses qui sont dites à tout le monde, à tous les bénis noirs, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas que la Torah pour parler du travail. Or, je crois que quelque chose est dit à tout le monde, puisque c'est Adam,
oui.
Précisément Adam Arishon, condamné à travailler et donc à souffrir. Or, Adam Arishon n'était pas juif. Alors, moi, je me demandais s'il n'y avait pas, puisqu'on approche de la fin des temps, un message qu'on pouvait peut-être dire. Alors, il y a peut-être des économistes modernes. Mais que d'autres que les juifs pourraient dire, alors désolé, quand ils sentent Torah, et moi je me demande justement s'il n'y a pas quelque chose qui renvoie précisément à cette parole et à ce précepte, et qu'on peut voir tout bêtement dans cette anathème, parce qu'en 1958 ça commence à faire un peu vieux. Quand on regarde le monde du travail maintenant, sans nier qu'il reste toujours une souffrance pour une grande partie de l'humanité, il ne s'agit absolument pas d'oublier. Centré sur l'Occident, mais disons que l'Occident peut ouvrir parfois des fenêtres et révéler des possibles, même s'ils ne sont pas encore manifestes partout. Qu'est-ce qu'on voit ? Au départ, le travail, c'était un effort physique, une souffrance physique, sauver la charrue, aller dans les mines, etc. Il y a eu une évolution, en fait, ce physique, même si, donc je sais bien qu'il n'a pas disparu, je ne sais pas, mais on a vu qu'il y avait une possibilité d'éradiquer, en fait, cette souffrance physique du travail. Les machines, je ne vais pas faire un cours de. Mais ensuite, il y avait un autre aspect de la souffrance qui venait, et c'était celui de la monotonie, la répétitivité, celle qu'on connaît dans les usines, etc., qui est une autre torture. Le fameux labeur, ça continue la torture. Or, maintenant, et ça se rapproche de plus en plus, eh bien, on voit que même ce côté répétitif est en train d'être éradiqué, puisque bon, l'informatique est là pour se substituer de la même manière. Parce qu'on a trouvé un cheval pour chaque tâche difficile, un cheval mécanique, maintenant on trouve une machine qui va faire tout ce qu'il y a de répétitif, tout cet aspect de torture également. Et finalement, qu'est-ce qui reste en possible, bien sûr, parce que c'est pas ce qui reste en possible, mais en fait, ce sont toutes les tâches qui ont un rapport soit avec la relation à l'humain, soit avec la création. Qu'est-ce qui reste finalement une fois? on les a maîtrisés. Et bien, il reste tout ce qui peut être soigner autrui, aider autrui, enseigner à autrui, ou il reste tout ce qui est organisé, programmé, programmé, inventé, créé. C'est-à-dire les deux aspects, la pensée, la parole et la relation à l'autre avec le récit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la nature même de l'activité humaine, pour tous les Nénoirs, eh bien, il y a un message qui est en train de passer et qui est énorme. Et il faut vraiment être économiste pour ne pas écrire là-dessus. Mais c'est quand même assez clair que le juif était un petit paresseux qui s'arrêtait de travailler une fois par semaine, qui ne comprenait pas que l'essentiel de la vie, c'était le travail, c'est-à-dire la souffrance. Et puis tout le monde est en train d'avoir la capacité de devenir paresseux et de créer, de penser et de parler à l'autre, pas pendant un jour, mais pendant tous les jours de la semaine. Donc cette fenêtre reste toujours ouverte. Et c'est comme si on disait, en fait, à l'humanité entière que tout cela existe. C'est comme s'il y avait un langage qui n'est pas le langage de la Torah, effectivement, mais qui est le langage de la Torah, mais adressé à tous. Et je crois que c'est ça qu'on pourrait voir. Je pense que ce serait plutôt ça qui aiderait à faire un lien entre ce que tous peuvent faire et ce que les juifs peuvent faire avec notre propre message. Notre message ne tourne pas autour de l'historique, il ne tourne pas autour du travail, il ne tourne pas autour de cette époque, il tourne autour d'un travail spécifique qu'on a à faire. Mais tous ceux à qui on a dit « Votre travail, ça va être effectivement à la sueur de notre front », et justement, j'ai voyé dans la note Hirsch, qui disait en fait cette sueur, lui n'interprétait pas comme un effort physique, mais comme un effort de création et de réflexion. Et c'est comme si on disait maintenant, pendant des siècles, vous l'avez compris comme un effort physique, mais en réalité cet effort c'était de votre esprit qu'il fallait le faire. Et c'est un message qui rejoint celui que nous on a toujours eu et qui me semble-t-il devient beaucoup plus clair.
Il y a pas mal d'auteurs contemporains qui se sont interrogés sur effectivement les limites actuelles du travail, notamment par rapport à ce qu'a été le mouvement de rationalisation taylorienne, et qui ont essayé de proposer d'autres modèles de développement du travail en faisant réappel à nouveau à des formes de créativité, d'imagination, en essayant à nouveau de rétablir de la communication dans le travail, en essayant de limiter la pénibilité, en essayant de même une notion moi qui m'a pas mal intéressé, j'ai trouvé un sociologue qui essayait de réfléchir au travail comme une conduite d'événements, donc pas comme une succession de tâches-temps, conduite d'événements de production, donc avec l'idée de conduire selon un projet. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font dans l'ensemble de pour essayer de corriger. C'est quand même un système qui essaye de corriger ses propres excès. Je crois que tout ça, c'est, moi, à mon avis, c'est très bien que chacun, là où il est, puisse participer de cette réflexion, effectivement, sur les perspectives que ça peut ouvrir. Je crois qu'on n'a pas que ça comme rôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire que parce que derrière tout ça, il y a en même temps des gens qui ressurgissent en disant oui, mais si vous refaites ces trucs de motivation qu'on voit chez les cadres, etc., on réinvente une sorte d'esclavage où même tout leur temps privé est absorbé par chez eux, ils remportent leur ordinateur, font des trucs, etc., et on va leur prendre leur week-end et on va les obliger de s'impliquer non seulement physiquement mais aussi. Alors, il y a des gens qui disent au fou là-dedans. Bon, les principes de communication, c'est aussi, il y a des gens qui disent c'est au fou, c'est une manipulation complètement des gens, etc. C'est-à-dire, c'est assez compliqué d'y voir clair, et ça, je suis tout à fait d'accord que notre rôle, comme tout le monde, il est de réfléchir à ces corrections qui sont faites dans le travail, les perspectives que ça ouvre, les réflexions, et en même temps, leurs limites. Bon, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore assez regardé là, et qui nécessitera qu'on y regarde dans les prochaines séances. C'est quand même là, pour le coup, je trouve qu'on zappe un peu le fait qu'on a énormément d'obligations horizontales, et notamment de lois aussi dans le travail. Et donc je pense que c'est aussi ça qui c'est pas là là on les fait pas simplement pour dire nous on va corriger les aspects inhumains ou pénibles du travail. On arrive aussi avec des quantités de halakhot qui se jouent dans le travail, qui visiblement donnent aussi un sens, bon, parfois dans le sens de générosité, parfois dans le sens d'attention à l'autre, des choses comme ça, mais qui, je pense, ça a notre travail spécifique à ajouter en plus de ce travail commun à tout le monde de réflexion sur le travail. Je ne suis pas sûr que j'ai bien répondu. Vous avez l'air perplexe, donc. Passe la parole à Jean-David Schmitta pour les conclusions. Je passe la parole à Jean-David Schmitta pour les conclusions.
J'ai juste une question sur la question de la sanction et la rétribution du travail. Alors, si le travail c'est l'articulation entre le Chol et le Kodesh, alors à quel ordre appartient la rétribution du travail? Ce soir vous avez cité Rabbi Akiva qui dit qu'il est préférable de percevoir son salaire dans le monde à venir que de le percevoir dans le monde présent. Et ça fait écho à ce qui a été dit la semaine dernière sur la sanction du travail, qui peut être et qui semble être d'une part une sanction, une peine de mort qui vient du ciel, qui fait écho au salaire dans le monde à venir, et d'autre part une peine de mort terrestre qui fait écho à la rétribution du travail dans ce monde-ci. Et il semble que dans les deux cas, il est préférable d'être soit sanctionné, soit rétribué pour son travail dans le monde à venir que dans le monde présent. Alors ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Pourquoi est-ce que le travail appelle qu'il soit considéré sous l'angle de la rétribution ou de la sanction une distinction entre le monde à venir et le monde présent?
tu as une idée de ce qu'il faut répondre à ce monsieur? Parce que moi, je ne sais pas répondre.
C'est en effet une façon déguisée de demander qu'est-ce que c'est que la maba. Mais...
J'attends la prochaine séance. Tu veux dire quelque chose? Moi, je ne sais pas répondre à la question. Je ne sais pas du tout. Bon, oui.
Il se joue aussi.
Il y a même peut-être le noyau du spirituel. Le noyau du spirituel. Si on le prend peut-être à l'inverse, je pense qu'on peut aller, dans ce sens-là. Et que si, de la même façon que on se conduit en faussant les mesures dans le travail, et ça on pourrait rentrer dans les détails, on peut dire fausser les mesures, en faussant les mesures dans le travail, alors on se crée. Alors, en jouant la carte inverse, c'est-à-dire en rentrant dans le précès, dans une dimension de justice à l'intérieur du travail, alors je pense qu'il peut y avoir des grands enjeux.
Tout à fait. Dans l'autre paracha, j'ai cité là, Ekev là, en conclusion. Effectivement, il y a le commentaire de Rashi, il est exactement dans le même sens. Il dit, en gros, faites attention à ces petites mitzvot matérielles horizontales que vous écrasez du talon, parce que c'est là où va se jouer effectivement toute cette circulation verticale horizontale, et quand si vous négligez des petites mitzvot, ça a des conséquences qui sont énormes, quoi. C'est un peu aussi dans ce même sens.
On a l'impression qu'on est soit l'un soit l'autre, et que, enfin je pense hein, que peut-être que c'est propre à l'Occident ou à la France en particulier, qu'on a beaucoup de mal en tout cas à cerner cette notion, et on le ressent dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que ça peut être par exemple des personnes qui vont vous dire
tout à fait d'accord sur le fait que savoir si c'est seulement aux autorités religieuses de le faire ou à chacun de nous.
Quoi que ce soit, non. Par contre, si elle veut la clé d'Aka, et il offrit la voix, elle
courage de travailler dans des camps. Donc, c'est là qu'il faut un petit peu essayer de casser, remettre l'obligation religieuse de générosité et d'humanité dans le monde du travail, et un petit peu casser cette exigé de Tzedaka qui pallie à tout le reste des devoirs humains, etc. D'obligation de solidarité dans le travail, etc. D'obligation de
Ok, on reviendra, je pense, sur ces questions dans les prochaines séances. Ce n'est pas pour les éluder. Je partage beaucoup de choses de ce que vous avez dit, bien sûr. Merci. Donc, prochaine séance, mardi prochain.